Pinocchio par Carlo Collodi, 7e et dernière cassette, première face, page 273. À partir de ce jour, Pinocchio continua pendant plus de 5 mois à se lever chaque matin avant l'aube pour aller tourner la manivelle et gagner ainsi le verre de lait qui était nécessaire à la santé fragile de son papa. Bien plus, trouvant ce travail insuffisant, il apprit aussi un peu plus tard à fabriquer les corbeilles et des paniers de joncs. Avec l'argent qu'il gagnait, il subvenait avec économie à toutes les dépenses journalières. Entre autres choses, il fabriqua de ses propres mains une élégante petite charrette pour promener son papa et lui faire prendre un peu l'air lorsqu'il faisait beau. Le soir, à la veillée, il apprenait à lire et à écrire. Pour quelques centimes, il avait acheté au village voisin un gros livre auquel il manquait la couverture et la table des matières, et c'est dans ce livre qu'il s'exerçait à la lecture. Pour écrire, il se servait d'une paille taillée comme une plume, et comme il n'avait ni encre ni encrier, il remplit une petite fiole de jus de mûre pour faire l'encre noire et de jus de cerise pour faire l'encre rouge. À force d'application au travail et d'ingéniosité, il avait réussi non seulement à procurer le nécessaire à son père qui était toujours malade, mais à économiser 40 sous pour s'acheter un habit neuf. Un matin, il dit à son père : Je vais au marché pour m'acheter un paletot, un béret et une paire de souliers. Quand je reviendrai à la maison, ajouta-t-il en riant, je serai si bien habillé que vous me prendrez pour un grand seigneur. Quand il fut sorti de la maison, il se mit à courir tout joyeux. Tout à coup, il s'entendit appeler par son nom, se retourna et vit une belle limace qui débouchait de la haie. « Tu ne me reconnais pas ?» dit la limace. « Il me semble... Tu ne te rappelles pas cette limace qui servait de femme de chambre à la fée aux cheveux bleus ?» Tu ne te rappelles pas le jour, ou plutôt la nuit, où je suis descendu pour t'éclairer où tu restas le pied cloué dans la porte de la maison. Mais si, je me souviens de tout cela, s'écria Pinocchio. Mais réponds-moi vite, ma belle limace, où as-tu laissé ma bonne fée? Que fait-elle? M'a-t-elle pardonné? Se souvient-elle toujours de son petit Pinocchio? M'aime-t-elle toujours? Est-elle loin d'ici? Pourrais-je aller la retrouver? À toutes ces demandes, faites précipitamment et sans reprendre haleine, la limace répondit avec son flegme habituel. Mon pauvre Pinocchio, la malheureuse fée est étendue sur un lit d'hôpital.
À l'hôpital ?
Hélas, frappée par de nombreux malheurs, elle est tombée gravement malade et n'a pas de quoi s'acheter même un morceau de pain. Vraiment, oh, quel chagrin tu me causes! Pauvre petite fée! Pauvre, pauvre petite fée! Pauvre petite fée! Si j'avais 1 million, je courrais le lui porter. Mais je n'ai que 40 sous. Les voici. J'allais justement m'acheter un habit neuf. Prends-les, limaces, et va vite les porter à ma bonne fée.
Et ton habit neuf?
Tant pis pour l'habit neuf. Je vendrai jusqu'à ces hardes que j'ai sur le dos pour lui apporter un peu de secours à ma petite fée que j'adore. Va, limace, et dépêche-toi. Reviens ici dans 2 jours. J'espère pouvoir te donner encore quelques sous. Jusqu'ici, j'ai travaillé pour secourir mon papa. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai 5 heures de plus tous les jours pour secourir aussi ma bonne maman que j'aime. Adieu, limace. Je t'attendrai dans 2 jours. La limace, contre son habitude, se mit à courir comme un lézard en plein été. Pinocchio rentra et son papa lui demanda « Bah, et ton habit neuf ?»«
Il ne m'a pas été possible d'en trouver un à ma taille.
Bon, je l'achèterai une autre fois. » Ce soir-là, Pinocchio, au lieu de veiller jusqu'à 10 heures, veilla jusqu'à minuit. Au lieu de faire 8 corbeilles de joncs, de vanneries, il en fit 16. Puis il alla se coucher et s'endormit. En dormant, il lui sembla voir en rêve la fée, belle et souriante, qui, après lui avoir donné un baiser, lui dit « C'est bien, Pinocchio. Pour ton bon cœur, je te pardonne toutes les méchancetés que tu as faites jusqu'à ce jour. Les enfants qui secourent avec amour leurs parents dans leur misère et leurs infirmités méritent toujours beaucoup de louanges et d'affection, alors même qu'on ne peut pas les citer comme des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Sois prudent dans l'avenir et tu seras heureux. » Au même moment, le songe finit. Pinocchio se réveilla et ouvrit les yeux tout grands. Quel ne fut pas son étonnement quand il s'aperçut qu'il n'était plus un pantin de bois. Il était devenu un petit garçon comme tous les autres. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Il ne vit plus les murs de la pauvre chaumière, mais une belle petite chambre meublée et ornée avec une simplicité presque élégante. En sautant de son lit, il trouva tout préparé, des vêtements neufs, un béret neuf et une paire de bottines neuves en peau qui lui allaient comme des gants. Quand il fut tout habillé, il mit naturellement les mains dans ses poches et en sortit un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel étaient inscrits ces mots. La fée aux cheveux bleus rend à son cher Pinocchio les 40 sous qu'il lui a donnés et le remercie de son bon cœur. Il ouvrit le porte-monnaie et au lieu de 40 sous, il vit reluire 40 écus d'or tout neuf. Quand il se regarda dans la glace, il se prit pour un autre. Ce n'était plus l'image d'une marionnette de bois qui s'y réfléchissait, mais l'image vive et intelligente d'un bel enfant aux cheveux châtains, aux yeux bleus, avec un air gai et triomphant. Au milieu de toutes ces merveilles qui se succédaient, Pinocchio ne savait plus s'il était éveillé ou s'il rêvait encore, les yeux ouverts. « Papa, papa, où êtes-vous » s'écria-t-il tout à coup. Il entra dans la chambre voisine et trouva le vieux Geppetto sain, vif et de bonne humeur comme autrefois. Il avait repris sa profession de sculpteur et était précisément en train de dessiner une belle corniche agrémentée de feuillages, de fleurs et de têtes d'animaux.
« Dites-moi, papa, je serais bien curieux de savoir comment expliquer tout ce changement imprévu, » demanda Pinocchio en sautant au cou de son père et en le couvrant de baisers. Ce changement imprévu dans notre maison est dû tout entier à ton mérite, dit Geppetto.
Pourquoi mon mérite?
Parce que dès que les enfants, de méchants qu'ils étaient, deviennent bons, ils ont le pouvoir de faire prendre un aspect nouveau et riant à l'intérieur de la famille. Mais où donc s'est caché le vieux Pinocchio en bois?
Le voici, répondit Geppetto,
et lui montra un gros pantin adossé à une chaise, la tête tombant d'un côté, les bras ballants et les jambes croisées et à moitié repliées. C'était miracle qu'il tînt encore debout. Pinocchio se retourna pour le voir, et dès qu'il l'eut regardé un peu, il se dit en lui-même avec infiniment de complaisance, « Comme j'étais ridicule quand j'étais un pantin, et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon. » Fin de l'histoire de Pinocchio. Si tu veux maintenant, pour finir cette cassette, je te propose un conte de Grimm qui s'appelle « Loi d'or ». Ce conte de Grimm, c'est un conte allemand. Les frères Grimm vivaient au début du 19e siècle, il y a quelque chose comme 170 ans, et ils ont recueilli beaucoup de contes que l'on racontait dans les campagnes. Celui-ci est dans la traduction d'Armel Gern, qui a été édité chez Flammarion dans la collection Flammarion Grand Format. Je l'extrais du premier volume des Contes de Grimm. Loi d'or. Un homme avait trois fils, dont le cadet, le dernier, avait été surnommé le Bêta. On se moquait de lui et on l'humiliait toujours, on lui faisait toutes sortes de misères. L'aîné des trois garçons, un jour, devait aller dans la forêt couper du bois. Sa mère lui donna à emporter une belle galette aux œufs et un flacon de vin. Lorsqu'il fut arrivé dans la forêt, il y rencontra un petit gnome, c'est-à-dire un petit nain, tout vieux, qui le salua et lui dit « Donne-moi un petit bout de ton gâteau et laisse-moi boire un petit coup de ton vin. J'ai si grand faim et si terriblement soif. Oh, passe ton chemin !» répondit le fils aîné, malin. « Si je te donne mon gâteau et mon vin, il ne m'en restera plus pour moi. » Plantant là le petit homme, il s'éloigna et se mit au travail. Mais il avait tout juste donné quelques coups de cognée. Tu sais que la cognée, c'est la grande hache qu'utilisent les bûcherons. Il avait tout juste donné quelques coups de cognée au premier arbre qu'il voulait abattre quand il rata son coup et s'entailla sérieusement le bras. Il lui fallut rentrer bien vite à la maison pour se faire panser et soigner. Il ne le savait pas, mais c'était le petit gnome tout vieux qui avait provoqué l'accident. Le second fils partit à son tour pour la forêt, et la mère lui donna, comme à son frère aîné, une bonne galette aux œufs et du bon vin. Il rencontra également le petit homme qui lui demanda un peu de sa galette et un peu de son vin. « Passe ton chemin !» lui répondit le second fils malin. « Si je te donne mon gâteau et mon vin, je n'aurai plus rien pour moi !» Et il planta là le petit homme pour aller au travail. Sa punition ne se fit guère attendre, car au premier coup de cognée qu'il donna, la cognée glissa et lui entailla gravement la jambe. Il appela et on dut le porter chez lui. Père, dit alors le Bêta, je vais y aller, moi, couper du bois.
Tes deux frères se sont blessés, répondit le père. Alors ne te mêle pas de cela, toi qui ne comprends rien à rien. »
Mais le bêta revint à la charge et supplia si longtemps son père qu'à la fin, excédé, celui-ci lui donna la permission.
« Eh bien, vas-y donc, lui dit-il, il n'y a rien de tel que l'expérience. C'est par où on se blesse que vous vient la sagesse. »
La galette que lui donna sa mère
était
une galette à l'eau cuite à la cendre, et la boisson qu'elle lui donna était de la petite bière déjà aigre. Dans la forêt, il rencontra, tout comme ses deux grands frères, le petit gnome tout vieux qui lui demanda un peu de sa galette et un peu de sa boisson.
« Oh, ce que je n'ai pas très bon. Je n'ai qu'une galette cuite à la cendre et de petites bières rances, répondit le bêta. Mais si tu veux t'en contenter, viens et mangeons. »
Ils s'assirent. Mais lorsque le bêta sortit sa galette à la cendre, c'était une belle galette aux œufs toute dorée. Et quand il sortit sa bouteille de petite bière, c'était du vin et du meilleur. Ils mangèrent, ils burent, puis le gnome parla. Parce que tu as bon cœur et sais partager ce que tu as, je vais, moi, te faire un don. Tu vois cet arbre là-bas, ce très vieil arbre, abat-le et dans la souche, tu vas trouver quelque chose. Le gnome salua et disparut. Le bêta alla jusqu'au vieil arbre, l'abattit, et découvrit dans les racines de la souche une oie qui avait des plumes d'or. Il la sortit de là et l'emporta avec lui jusqu'à l'auberge où il allait passer la nuit. Mais l'aubergiste avait trois filles dont la curiosité fut piquée quand elles virent cette oie. Elles se demandaient quelle sorte d'oiseau merveilleux c'était là, et elles avaient grande envie d'avoir une des plumes d'or. « Je trouverais bien une occasion de lui arracher une plume, » pensa l'aînée des filles, qui profita d'une courte absence du bêta pour s'approcher de l'oie et lui tirer une plume. « Ah ! Wish ! » Ses doigts et sa main y restaient pris, collés. Impossible de les en détacher. Peu après, c'était la seconde des filles qui arrivait avec la même pensée, se tirer pour elle une plume d'or. Mais elle n'eut pas touché sa sœur, qu'elle était, elle aussi, accrochée et ne pouvant pas se décoller. Poussée par la même envie, la troisième sœur arriva pour arracher de même une plume de l'oie d'or. Ses deux sœurs lui crièrent de ne pas approcher. « Reste où tu es, pour l'amour de Dieu, reste où tu es, n'avance pas !» Ne comprenant pas pourquoi elle ne devait pas approcher, elle pensa au contraire, « Si elles y sont, je peux bien y aller aussi. » Et elle y alla, restant accrochée à la deuxième sœur dès qu'elle l'eut seulement frôlée. Sous des ainsi, elles durent passer la nuit, la première à tenir l'oie, la seconde à tenir la première et la troisième à tenir la seconde. Le lendemain matin, le bêta prit son oie sous le bras et s'en alla sans s'occuper le moins du monde des trois filles qui étaient accrochées derrière. Et il fallut bien qu'elles le suivissent, trottant ici, sautant là, partout où il lui plaisait d'aller, gauche, droite, posant les pieds et remuant les jambes comme il le faisait. En pleine campagne, le curé les croisa, étonné du cortège qu'il voyait là. « Vous n'avez pas honte, vilaine fille, de courir avec ce garçon jusqu'au milieu des champs ?» les réprimanda-t-il. « Est-ce que ce sont des choses qui se font ?» Il attrapa la dernière par le bras pour la tirer en arrière. Mais dès qu'il l'eut touché, voilà qu'il dut suivre lui aussi et fut attaché avec les autres. Un peu plus loin, ils rencontrèrent le sacristain qui ouvrit de grands yeux en voyant monsieur le curé aux trousses de trois jeunes filles.
Hé, monsieur le curé, lui cria-t-il, où courez-vous si vite? N'oubliez pas que nous avons un baptême tout à l'heure.
Et le sacristain courut pour attraper le curé par sa manche, à laquelle, bien sûr, il resta attaché derrière les autres. Et ils étaient maintenant cinq à la queue leu-leu, derrière le bêta et son noix. Voyant deux paysans qui revenaient des champs, la bêche sur l'épaule, le curé les appela pour qu'ils viennent avec leurs outils les détacher, lui et le sacristain, du reste de la bande. Mais dès que les paysans y eurent mis la main, ils furent attachés à leur tour et obligés de suivre, ce qui fait qu'ils étaient sept à présent derrière le bêta et son noix. Marchant toujours, il arriva dans une ville dont le roi avait une fille d'un si grand sérieux qu'elle n'avait jamais, jamais encore ri de sa vie. Alors le roi avait fait annoncer qu'il donnerait sa fille en mariage à celui qui parviendrait à la faire rire. Le bêta, quand il apprit la chose, se rendit avec son noix et la suite devant la fille du roi, qui éclata de rire en voyant ses sept à la queue leu-leu qui tricotaient des jambes sans pouvoir s'arrêter. Le bêta la réclama donc comme épouse. Mais le roi, qui ne trouvait pas ce gendre à son goût, fit toutes sortes de difficultés et lui dit pour finir qu'il ne lui donnerait sa fille que s'il lui amenait quelqu'un qui fût capable de boire une pleine cave de vin. Pensant aussitôt que le vieux petit gnome pourrait l'aider, le bêta retourna tout droit à la forêt. Arrivé à l'endroit où il avait abattu son arbre, il y vit un homme assis, la mine longue et le visage triste. Le bêta lui demanda ce qu'il avait et ce qui lui pesait tellement sur le cœur.
C'est la soif terrible qui me brûle, répondit l'homme, et je ne peux pas arriver à l'éteindre. L'eau fraîche n'y fait rien. Je viens d'engloutir tout un tonneau de vin.
Mais ça ne m'a pas fait d'effet, ça ne m'a pas désaltéré, pas plus qu'une goutte d'eau ne peut éteindre un grand feu.
Dans ce cas, je peux te rendre service, lui dit le bêta. Viens avec moi et tu pourras sûrement boire à ta soif.
Il l'emmena dans la cave du roi, où l'homme s'installa sous le plus gros tonneau, qu'il vida jusqu'à la dernière goutte. Puis il passa au second tonneau, et ainsi de suite, buvant et buvant et buvant, jusqu'à s'en faire mal aux hanches. Un jour plein ne s'était pas encore écoulé, que la cave était entièrement vide. Le bêta s'en alla une deuxième fois réclamer son épouse, mais le roi enrageait à la pensée que ce rustre, dont tout le monde se moquait et qu'on appelait le bêta, pourrait être le mari de sa fille. Il discuta et finit par lui imposer une nouvelle condition. Il ne lui donnerait sa fille que s'il était capable de découvrir un homme qui mangerait une montagne de pain. Le bêta ne perdit pas son temps en longues réflexions. Il retourna dans la forêt, et quand il arriva à l'endroit où il avait abattu l'arbre, il y trouva un homme qui se serrait le ventre avec sa ceinture et qui lui dit la mine sombre. « Je viens de manger une pleine fournée de baguettes de pain, mais à quoi bon quand on a la faim que j'ai ? Mon ventre est toujours vide, et pour ne pas mourir de faim, je suis obligé de me serrer la ceinture. « Lève-toi et suis-moi, lui dit le bêta, tout heureux à cette nouvelle. Tu vas pouvoir te rassasier. » Il l'emmena à la cour du roi, qui avait fait rassembler tout le blé du royaume pour en faire une énorme montagne de pain empilé. L'homme sortit de la forêt, s'y attaqua aussitôt et se mit à manger tant et si bien qu'il l'avait englouti en moins d'une journée. Et le bêta, pour la troisième fois, alla réclamer son épouse, que le roi chercha encore à lui refuser en exigeant comme nouvelle épreuve qu'il trouvât un bateau capable de naviguer sur terre comme sur l'eau. Que tu viennes avec un bateau tel que celui-là, lui dit le roi, et tu épouseras aussitôt ma fille. Le bêta s'en retourna directement dans la forêt, où il trouva le petit gnome tout vieux qui l'attendait, celui avec lequel il avait partagé son gâteau et sa boisson. Pour toi, dit le gnome, j'ai bu la cave et j'ai mangé la montagne. Je vais aussi te procurer le bateau. Et si je fais tout cela, c'est parce que tu as bon cœur et que tu t'es montré généreux avec moi. Il lui donna ce bateau qui naviguait sur terre comme sur l'eau. Et quand le roi le vit, il ne put certes pas lui refuser sa fille plus longtemps. Le mariage eut lieu, et quand mourut le roi, le bêta hérita du royaume, où il vécut encore longtemps dans le bonheur avec son épouse, dont il eut de nombreux petits-enfants, garçons et filles, tous plus charmants les uns que les autres. Voici un autre conte de Grimm, La Maigre Lise. La Maigre Lise était une acharnée. Elle se crevait elle-même au travail, de l'aube à la nuit, et elle en donnait tant à faire à son mari, le grand Laurent, qu'il en avait sur les épaules plus lourd qu'un âne avec une triple charge. Et pourtant, c'était pour rien. Il n'avait rien et n'arrivait à rien. Un soir, que Lise était au lit, exténuée au point qu'elle ne pouvait même plus bouger un membre, elle n'arrivait pas à dormir à cause de ses pensées qui n'arrêtaient pas de la travailler. Poussant du coude son mari à côté d'elle, « Écoute, Laurent, lui dit-elle, sais-tu à quoi je pense? Si je trouvais un florin, une pièce d'or, qu'on m'en donne une autre, que j'en emprunterais un troisième et que toi, tu m'en donnerais un aussi, dès que j'aurai mes 4 florins, j'aimerais acheter une vache. » Le mari trouva la chose à son goût. « Je ne sais pas du tout, dit-il, où je pourrais aller prendre le florin que tu attends en cadeau de moi. Mais si vraiment tu réussis à rassembler tout cet argent et que tu puisses acheter une vache, tu feras très bien de le faire et de mener ton idée à bien. Je me réjouis du plaisir que j'aurai quand la vache aura son veau à boire de temps en temps un petit bol de lait. »« Le lait n'est pas pour toi, copain Lise. Il faut laisser téter le veau pour qu'il devienne gros et gras, que nous puissions bien le vendre. » Le mari reprit, « Je ne dis pas non, mais un petit peu de lait par-ci par-là que nous prendrons pour nous, ça ne fera de mal à personne. » La maigre Lise s'indigna, « Mais où est-ce que tu as appris à soigner les bêtes, toi ? Mal ou bien, ça ne se fait pas et je ne veux pas de ça. Tu n'auras pas une goutte de lait, c'est moi qui te le dis, même si tu te mets debout sur la tête pour en avoir. Goulu, gourmand, ah, toi le grand Laurent, tu penses peut-être que tu vas manger à mesure ce que j'amasse pour mes peines ? Femme, dit le mari, « Ferme-la !» où tu vas prendre une claque sur la figure. « Comment ? » hurla-t-elle. « Tu me menaces, moi, toi qui es grand offre, espèce de grand bon à rien de paresseux Henri ? »
et comme elle voulait l'attraper par les cheveux, le grand Laurent se redressa dans le lit, immobilisa d'une seule main les deux maigres bras de la maigre Lise, de son autre main il lui fourra la tête sous l'oreiller, où elle put piailler tout à son aise. Il l'atteint là si longtemps qu'elle finit par s'endormir en cédant à sa grande fatigue. Quant à savoir si elle se remit à quereller le lendemain matin ou si elle partit à la recherche du florin, de la pièce d'or qu'elle voulait trouver, je ne peux pas le dire. Fin de la première face de la 7e cassette, Pinocchio, suivi de quelques contes de Grimm.